C'est-à-dire qu'on donne de la fausse information pour alimenter une population et pour faire en sorte qu'elle se soulève presque contre son régime. C'est différent.
C'est valable aussi pour le monde musulman, mal interprété par des gens qui sont d'origine d'Arabie Saoudite ou qui financent le Qatar, tout ça, qui financent une espèce de...
Je pense qu'il faut peut-être éviter de confondre musulmans et arabes, mais il y a deux sujets, à mon avis, là-dedans. Tu as raison, c'est tous les blocs, en fait, qui sont des blocs extrêmes, qui sont des blocs d'idéologues, oui. et qui, pour le coup, portent une vision du monde et qui désinforment à ce titre-là, pour le coup, doivent être nos ennemis, mais on doit militer contre, on doit informer, en fait. La question, c'est plus de remettre de l'information, de remettre de l'analyse, de remettre de l'intelligence, en fait, dans le débat public.
Ça me fait mal au Mich, c'est qu'à le dire, de savoir que l'émirat du Qatar finance le PSG, quoi, je veux dire. Voilà.
Et oui, non mais
ça les a pas fait gagner hier soir. Si tu veux.
Donc c'est un émirat totalitaire. Si tu veux.
Non mais c'est-à-dire qu'ils avaient pris le Messi, mais tu as vu, ça a pas réussi. Chaque année, j'ai l'impression qu'ils se font éliminer un peu avant, en fait. Plus ils mettent d'argent.
La 8e, là, c'est non, ça faisait un bout de temps qu'ils avaient.
Finale ou demi la dernière fois.
L'année dernière, c'est en demi, sans savoir. Demi.
Non mais la France, c'était les quarts. Non mais j'ai l'impression que 8e, c'est quand même ridicule. Là, on commence à basculer.
Alors,
avec l'argent du Qatar,
c'est quand même un petit peu embêtant d'avoir des
États
totalitaires comme ça.
On est d'accord, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non mais je te comprends. Mais on va pas déborder parce que sinon on va jamais réussir.
Tu m'as pas dit que t'as invité Zemmour à cette table.
Aborder tous les sujets avec Christophe Pirel, donc qui est notre invité et qui revient sur les devants de la scène en même temps que François Hollande.
Pas de hasard.
Ça, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, j'ai été voir un petit peu François, parce qu'on le voit pas mal en ce moment à la télé.
Il parle beaucoup.
Il parle beaucoup, et peut-être un peu trop.
Dire, d'ailleurs.
Non. Et peut-être un peu trop. En tout cas, il a dit ça. Écoutez-le.
C'est-à-dire, c'est pas simplement on arrête du gaz et on va en chercher ailleurs. On va en chercher donc au Qatar, l'Algérie, la Norvège, ce qui est quand même plus facile et plus acceptable sur le plan géopolitique. Donc ça, c'est un premier point possible. Et ce qu'il faut, c'est nous sortir de la dépendance à l'égard du gaz, ce qui suppose de faire monter les renouvelables beaucoup plus rapidement et amplement que nous l'avions imaginé. Ça suppose aussi que le nucléaire, dont l'Allemagne voulait se passer, dont la Belgique voulait se passer et dont la France ne savait pas exactement quelle devait être son orientation, eh bien il faut garder les centrales existantes, les prolonger, faire en sorte qu'elles puissent nous fournir une énergie de substitution.
Alors c'est quand même c'est quand même pas un peu ironique qu'ils viennent nous expliquer aujourd'hui qu'on dépend trop, par exemple, du gaz russe, après avoir pris la décision de mettre la pédale douce sur les centrales nucléaires, et c'est lui qui a décidé la fermeture de Fassenheim, par exemple.
Mais non, parce que Fassenheim était vieillissante et qu'il fallait la fermer.
Et là, il dit il faut pousser
Mais oui, mais ça, si tu veux, c'est toujours pareil. Quand tu isoles complètement le propos, c'est facile. Ce qu'il disait, et à juste ce titre, c'est qu'il fallait diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Et ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas pour recréer des dépendances à l'international. Le problème, c'est que pour sortir du nucléaire, il faut avoir prévu, du coup, les énergies alternatives. Et c'est ce qui a toujours été dit par François Hollande. Je sais pas pourquoi on vient le chercher là-dessus. Il a dit on va passer à 50%. Et pour passer à 50%, il faut avoir, du coup, entre-temps, créé des panneaux photovoltaïques. Il faut avoir créé notre propre biogaz, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, tout ça est très cohérent. Moi, je vois pas où est le sujet, en fait. Non, mais pour le coup, la question, c'est de l'autonomie énergétique.
Il est moins contre qu'il a été.
Oui, mais sauf que dans la même interview, parce que je l'ai écouté, c'était sur France Inter, dans la même interview, il dit que potentiellement, si à un moment X, c'est-à-dire aujourd'hui, dans un état de crise, il faut relancer de la centrale à charbon pendant un an, et ben il faudra peut-être le faire. Et même si c'est à l'antipode de tout ce qu'on dit sur la question environnementale, mais si ça nous crée de la dépendance énergétique, il faut peut-être effectivement lutter contre cette dépendance et donc potentiellement faire ce que nous, on pensait qu'il ne fallait pas faire il y a quelques années, pour lutter notamment contre le réchauffement climatique. C'est un temps qui normalement ne devrait pas durer 40 ans, c'est un temps dans notre vie dans lequel effectivement on doit accepter certains compromis. Et ce que dit François Hollande, et moi franchement pour le coup, je trouve qu'il est assez courageux quand il dit deux choses. D'abord, un, on doit faire des efforts sur notre sol. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire que là-bas, il se passe des choses et nous, en fait, on fait rien. Quand il dit, en fait, il faut supprimer le gaz, il faut peut-être baisser nos températures, il faut peut-être qu'on ait un peu plus froid dans nos maisons, voire dans nos équipements publics. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est à côté de personnes qui souffrent là-bas et qui meurent de baisser d'un degré notre température pour avoir moins de dépendance vis-à-vis de la Russie? Ça, c'est plutôt intéressant. Quand il dit, il faut arrêter de parler de baisse d'impôts, il dit, je suis contre les baisses d'impôts actuellement. Mmh. Parce qu'en fait, on est dans un moment de crise et qu'il faut payer la crise. Et que personne ne peut imaginer qu'on puisse baisser les impôts dans ce temps-là. Pourtant, c'est la fête à la. Franchement, c'est la fête à la saucisse de la baisse d'impôts.
Alors, parlons-en de la fête à la saucisse.
C'est dans le même temps, il y a ceux qui effectivement nous expliquent qu'il faut dépenser plus en permanence. Il faut lutter contre la Russie et notamment en descendant notre dépendance énergétique à la Russie. Mais par contre, pour payer, on ne sait pas comment on va faire parce qu'en fait, nous, on veut aussi baisser les impôts. Mmh. Ah, c'est super. Je ne sais pas comment on fait à la fin.
C'est-à-dire que c'est lunaire. Hollande, ce qu'on peut lui reprocher, c'est la forme qu'il a utilisée pendant tout ce temps pour avoir
des opinions. Oui, on peut lui reprocher 150 000 trucs à François Hollande, si tu veux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus reprocher à François Hollande. Ça fait 5 ans qu'il y a un autre président de la République.
Exactement.
Il faut peut-être arrêter avec ce truc.
Eh bien, parlons-en de l'élection présidentielle.
Non, voilà. parce que si tu veux, il y a des gens qui, pendant 20 ans, reprochaient à Mitterrand d'avoir fait des trucs en 83.
Non,
si
c'est top.
On lui reprochait simplement qu'il a été maladroit dans la forme.
François
quoi.
Mitterrand. Non, mais si tu veux, moi, je peux
aller. Alors, donc, Valéry Giscard d'Estaing.
Pour expliquer nos problèmes d'aujourd'hui, si tu veux.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans cette élection, mais c'est bizarre. Ils ont tous voulu que le président sorte. Ils ont tous voulu que le président sortant se déclare le plus vite possible pour que débute la campagne. Alors que la campagne, elle a débuté depuis quelques mois. En tout cas, il y en a qui ne s'en sont pas privés au niveau de l'antenne, d'ailleurs, depuis janvier. Et donc, ont eu ou encore largement le temps de présenter leur projet.
Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France.
Excusez-moi, c'est le syndrome de la Tourette, ça me prend de temps en temps. Donc, je disais, ils ont largement le temps de présenter leur programme. Le temps de parole des candidats sur les principales chaînes de télévision du 1er janvier au 14 février. Je vous jure que c'est vrai. Éric Zemmour, 34 heures. Bon, je vous passe les minutes.
Ça, c'est long, t'imagines ?
34 heures.
Si tu devais les faire d'affilée.
Ah, t'imagines ?
Marine supplice.
Marine Le Pen, 24 heures. Jean-Luc Mélenchon, 23 heures. Valérie Pécresse, 22 heures. Yannick Jadot, 18 heures. Fabien Roussel, 9 heures. Hidalgo, 14 heures. Christiane Taubira, 6 heures. Nicolas Dupont-Aignan, 7 heures. Voilà, grosso modo. Donc, c'est pour vous dire que... ils ont quand même eu pas mal de temps pour pouvoir expliquer leur programme. Quant à savoir si le président se présente ou se présente pas, rien ne les empêche de faire le bilan du quinquennat de Macron. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas parce qu'il va se présenter ou pas que le bilan sera meilleur ou pire. Mais c'est quoi cette fixette sur sa candidature? Je sais pas, je m'en fous complètement. C'est comme le débat. C'est quoi aussi cette fixette sur le débat? Je vote depuis 1981. J'ai jamais vu un débat avant le premier tour.
Si, il y en a eu un.
Ou alors j'ai raté un épisode.
En 2012.
Un débat.
Ah, bien sûr. Souviens-toi, il y avait.
Un tête-à-tête, tu veux dire?
Non, il y avait un débat avant.
Ah, tu veux dire une émission où il y avait tous les candidats.
Bien sûr, il y avait D'accord. Emmanuel Macron, okay. Benoît Hamon, Philippe Poutou. Souviens-toi, il y a cette même scène d'ailleurs de Philippe Poutou qui harangue Emmanuel Macron,
oui,
Marine
oui.
Le Pen, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Il y avait tous les candidats du premier tour qui avaient fait un débat. En
Mais il n'y avait pas de président sortant.
Il y avait pas. Non, je te confirme.
Puisque c'était... C'était François. C'était papa.
Le président sorti. Voilà.
C'était papa.
En sortant, obligé de.
Oui, je sais, c'est lourd. C'est un souvenir lourd.
Si tu veux, tu es très content de te voir aujourd'hui parce qu'on s'est dit que tu es un socialiste, donc c'est une espèce en voie de disparition.
Donc, je n'ai plus ma carte.
Une espèce protégée.
Donc, du coup, voilà. Donc, alors, j'ai fait un calcul. Je me suis dit, bon, alors si on fait un débat pour que ce soit intéressant, parce que là, c'est pas un débat d'où c'est une foire d'emploi.
C'était intéressant 2012, souviens-toi. Attends, franchement, le débat de 2012, il avait permis des clarifications, parce que je me souviens que Benoît Hamon est arrivé, c'est terrible pour lui d'ailleurs, mais il arrive à ce débat de premier tour, il est à 16%, Jean-Luc Mélenchon est plutôt écrasé, Jean-Luc Mélenchon a plutôt été très bon dans ses débats, Poutou était assez remarquable dans sa façon d'appréhender son
truc. Oui, oui.
Macron a plutôt survolé le débat et du coup je pense que ça l'a ancré dans une forme présidentielle. Marine Le Pen n'avait pas été trop mauvaise, ce qui a sans doute permis de passer au deuxième tour. Et suite à ça, Hamon s'était effondré complètement suite au premier débat. Ça avait été donc ça a plutôt clarifié. Alors
donc il faudrait pour toi, il faudrait qu'il le fasse. Alors
mais c'est intéressant d'avoir des débats. Moi je suis pour les débats d'idées. Donc, après je soit dans un format avec tous les autres candidats, mais quand t'es le sortant, du coup, tu deviens un petit peu la cible de tout le monde, donc c'est un peu
tout
plus compliqué.
Fait, non, pas,
par contre, d'avoir peut-être des débats avec des journalistes ou des confrontations, enfin, tu vois, je trouve que pour le coup...
Là, moi, je suis plus dans ce format-là.
Il y a un moment où il faut bien qu'il... Ça peut pas être, franchement... Et pour le coup, il va sans doute être réélu, parce que vu comme c'est parti, je vois pas trop... Les autres sont tellement nuls. Tu peux pas faire juste une campagne avec une
bien sûr.
Et une chaîne YouTube. Si tu veux, je pense qu'à un moment.
Non, mais on est d'accord. Mais
la confrontation. Ne serait-ce que pour lui, parce que
la confrontation avec des journalistes, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, ou alors de faire le débat face à face. Alors j'ai calculé, ils sont 12, ça fait 66 débats. Mais on peut y aller.
Ou bien ils le font chacun avec lui.
Non, 66 débats pour que chacun puisse rencontrer chacun. Parce que c'est quand même intéressant que tout.
Mais c'est
ça le problème aussi. Parce qu'un vrai débat où tu peux vraiment apporter tes idées, c'est un face-à-face avec quelqu'un. Mais quand tu te retrouves,
tu vois, sur Cité l'histoire de 2012, ça avait plutôt bien fonctionné, ça avait été organisé.
En 2017, pardon.
Oui, depuis tout à l'heure, 2012, personne ne me rattrape, c'est 2017. En 2017, c'est vrai que pour le coup, ces débats, ils ont eu lieu, ils étaient tenus. Moi, je me souviens du débat avec Routel Krief et Laurence Ferrari, qui justement avaient tous les candidats du premier tour. Franchement, ça a passé, quoi.
On s'aperçoit, si tu veux, qu'en définitive, ce type de débat est assez improductif parce que à chaque tour de rôle où un des candidats prend la parole, c'est pour évidemment fustiger le président en place. Donc c'est pas forcément très intéressant parce que ça ne plaît pas au public de toute façon. Les gens n'accrochent pas sur ce.
Ouais, les débats s'accrochent pas, mais enfin, dès qu'il y a un débat, même sur une primaire, même pour l'Europe Écologie Les Verts, ça fait 2 millions de personnes sur les chaînes d'infos. Je crois au contraire qu'en fait, les gens sont très friands de débats parce qu'ils voient bien que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se passent, la démocratie qui s'organise. Mais même, franchement, d'un format ou d'un autre, Emmanuel Macron va sans doute être réélu président de la République, très bien. À partir de ce moment-là, je pense même pour lui, pour la réussite de son deuxième mandat, il a intérêt à avoir cette phase de confrontation. Parce qu'il ne doit pas se mettre dans une position où, finalement, par une élection qui serait trop facile, entre guillemets, il devient un peu illégitime dans son deuxième mandat, où il n'arrive pas à apporter la question de ses idées.
On a besoin
d'un chef d'État fort dans la situation actuelle.
Ça sera compliqué pour lui.
Oui, mais il faut qu'il ait confronté ses idées. Je pense qu'il faut qu'il aille un moment quelque part, alors que ça soit effectivement face à des journalistes, que ça soit dans des débats avec d'autres candidats, etc., confronter des idées, les mettre sur la place publique pour que quand il va être élu, il soit élu sur cette base idéologique et sur des propositions, parce que quand il va voir les appliquer, sinon derrière les gens vont aller dans la rue en disant mais vous ne l'aviez pas dit, on vous a pas élu pour ça.
Tu le disais toi-même, s'il se retrouve avec les 11 autres, donc les 12 candidats, de toute façon ce sera lui la cible. Donc ce ne sera pas vraiment un échange, une présentation de programme et un échange d'idées.
Ça risque d'être compliqué.
Il est président de la République,
oui.
Il a son bilan pour lui, on voit bien quand même qu'il est assez solide et qu'il peut aller dans un débat. Moi je suis, enfin, pour le coup, quand vous voyez le panel aujourd'hui, ça ne devrait pas beaucoup l'inquiéter.
Je pense aussi que aujourd'hui on est dans des circonstances exceptionnelles qui font que les gens vont aller voter plus que de coutume. Il y aura moins d'abstention.
La guerre qui se passe en Europe peut inciter les gens.
Perspective de conflit peut éventuellement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce à cette constitution de la Ve République qui a été vilipendée et puis critiquée, on a quand même un président qui est à son poste. Moi, je l'admire parce que c'est pas pour ça que j'ai voté pour lui, mais je crois qu'il a eu un bon travail.
Tiens, toi qui
a
été
à sa place.
Oui, tu as raison. Tu ne voteras pas pour lui, tu voteras pour Pécresse. De toute façon, tu nous l'as dit. Toi qui
a été. Il y en a un alors.
Toi qui a été